Voix Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 29 septembre 2017. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Arnold Butson. Bonjour. Pour commencer, les titres.
Au Cameroun, interdiction de se déplacer et couvre-feu dans les régions anglophones.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU décide d'envoyer au Burundi 3 experts.
En République démocratique du Congo, le gouvernement a annoncé hier avoir nettoyé de toute présence rebelle la ville d'Uvira, dans l'Est.
En Angola, le nouveau président, Jean Lourenço, a nommé jeudi soir son premier gouvernement composé de 30 ministres.
Ici à Washington, l'administration Trump accélère l'acheminement de l'aide à Porto Rico, ravagé par l'ouragan Maria.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Cameroun, les autorités de la région anglophone du Sud-Ouest ont annoncé jeudi une interdiction stricte de se déplacer, imitant la région du Nord-Ouest où un couvre-feu est déjà en place. La mesure intervient à 3 jours d'une proclamation symbolique de leur indépendance par les séparatistes anglophones dimanche. Précision de Jean-Roger Bion.
Fermeture des frontières territoriales et maritimes, suspension des transports, interdiction de se déplacer entre les localités et interdiction des réunions de plus de 4 personnes dans l'espace public. Les autorités du Sud-Ouest, chef-lieu BUEA, ont annoncé dans un communiqué hier des mesures restrictives en amont de l'annonce de l'indépendance prévue par les indépendantistes anglophones. Un couvre-feu nocturne est déjà en vigueur dans la région anglophone du Nord-Ouest, chef-lieu Bamenda, depuis les manifestations du 22 septembre. Et un deuxième communiqué des autorités du Sud-Ouest indique qu'un renforcement militaire est prévu dans la région et appelle la population à rester calme. Les séparatistes anglophones veulent proclamer symboliquement leur indépendance ce dimanche 1er octobre, jour de la réunification officielle des partis anglophones et francophones du Cameroun. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est dit jeudi profondément préoccupé par la situation au Cameroun et a exhorté les autorités camerounaises à promouvoir des mesures de réconciliation nationale.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a décidé d'envoyer au Burundi 3 experts alors que les Occidentaux réclament le renouvellement du mandat de la commission d'enquête de l'ONU qui n'a pas été autorisée à se rendre sur place. Le point avec Solange Nyamulisa.
La résolution proposée par le groupe africain a été adoptée par 23 voix pour, 14 contre et 9 abstentions. Walid Doudedj, représentant de la Tunisie, a expliqué au nom du groupe africain que les experts vont travailler en collaboration avec le gouvernement de Bujumbura. L'ambassadeur de Lettonie, Janis Karklins, a estimé que les garanties d'indépendance et d'impartialité ne sont pas réunies. L'ambassadeur du Burundi, Renova Tabou, a assuré que la situation dans son pays est normale et que le gouvernement a réalisé des progrès remarquables dans la consolidation de l'état de droit et dans la lutte contre l'impunité. Le représentant de l'ONG Human Rights Watch à Genève, John Fisher, a déclaré qu'ils sont déçus par une résolution faible qui ne reflète pas la gravité de la situation. Il a toutefois souligné que les 3 experts du Conseil des droits de l'homme pourraient collaborer avec la commission d'enquête de l'ONU si jamais son mandat est renouvelé aujourd'hui vendredi.
En République démocratique du Congo, le gouvernement a annoncé hier avoir nettoyé de toute présence rebelle la ville d'Uvira, voisine du Burundi dans l'est de la RDC, et où des combats avaient opposé le matin l'armée à des miliciens Maïmaï Yakutumba. Tôt jeudi, des tirs d'armes automatiques et d'armes lourdes avaient été entendus dans Uvira, qui abrite plus de 500 000 habitants. Aucun bilan de ces tirs n'était disponible jeudi soir. La mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO, a affirmé avoir déployé des casques bleus mercredi dans la ville pour protéger la population.
En Angola, le nouveau président, João Lourenço, a nommé jeudi soir son premier gouvernement, composé de 30 ministres dont 9 conservent les portefeuilles qu'il détenait déjà sous la présidence de son prédécesseur, José Eduardo dos Santos. Parmi eux, celui des finances, Augusto Archer Manguera, nommé il y a 1 an pour tenter de relancer l'économie d'un pays en crise, victime de la chute des cours du pétrole, sa principale source de revenus. Manuel Domingos Augusto, ex-secrétaire d'État, a été promu ministre des Relations extérieures. Monsieur Lorenzo, 63 ans, succède à Monsieur Eduardo dos Santos, 75 ans, qui a pris sa retraite après avoir régné sans partage sur l'Angola pendant 38 ans. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition.
La justice libyenne a lancé 830 mandats d'arrêt visant des membres présumés du groupe État islamique en Libye. Ces poursuites sont engagées à l'issue de plusieurs mois d'enquête sur le réseau djihadiste. Des détails avec Eric Manirakiza.
D'après le procureur général libyen, ces mandats d'arrêt visent également des personnes se trouvant à l'étranger et accusées d'implication avec le groupe djihadiste. Al-Sedik Al-Sour a parlé d'une cinquantaine de cas, précisant qu'Interpol a été saisi. Il a indiqué que son bureau dispose d'informations précieuses à la suite des interrogatoires de plusieurs de ses membres présumés arrêtés dans différentes villes libyennes. Le procureur Al-Sedik Al-Sour a affirmé que plusieurs combattants et leurs dirigeants se trouvent toujours dans le sud libyen. Ils viennent surtout de pays voisins comme la Tunisie, l'Égypte et le Soudan, mais les principaux chefs sont de nationalité libyenne, a-t-il ajouté. Enfin, Al-Sedik Al-Sour a déclaré que ses services essaient d'identifier 780 corps de combattants islamistes tués à Sirte et conservés dans des morgues à Tripoli et Misrata dans l'ouest de la Libye. Le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli a assuré la reprise de Sirte en décembre 2016 avec le soutien aérien de l'armée américaine.
En Somalie, au moins 7 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées hier dans un attentat à la voiture piégée près d'un marché de Mogadiscio. Selon un porte-parole des autorités locales, l'explosion causée par une voiture chargée d'explosifs a frappé une zone densément peuplée. On soupçonne les insurgés islamistes d'Al-Shabaab affiliés à Al-Qaïda et qui combattent depuis 2007 le gouvernement central somalien soutenu par la communauté internationale.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Pentagone a nommé le général Jeffrey Buchanan pour coordonner tous les efforts de secours de l'armée américaine à Porto Rico, dévastée le 17 septembre par l'ouragan Maria. Il sera sur place dès ce matin. Les détracteurs de l'administration Trump lui ont reproché de n'avoir pas réagi plus rapidement à cette crise. Jeudi, le conseiller du ministère de la Sécurité intérieure, Tom Bossert, a défendu les 8 jours qu'il a pris au gouvernement avant de déclarer l'urgence à Porto Rico et la nomination d'un coordonnateur des efforts de rétablissement. L'administration Trump a par ailleurs suspendu une loi qui entravait l'envoi des secours et le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, a annoncé que les services d'urgence recevront dans les prochains jours une rallonge de 6,7 milliards de dollars.
Twitter a dit aux commissions du renseignement de la Chambre des représentants et du Sénat qu'il avait suspendu plus de 200 comptes après avoir déterminé qu'ils étaient liés à la Russie et visés à influer sur la politique intérieure américaine. Ces sessions à huis clos avec Twitter font suite à des briefings similaires avec Facebook, qui a promis ce mois-ci de remettre au Congrès des messages à caractère politique via l'achat d'espaces publicitaires sur ce réseau, et qui portait sur des questions sociales et politiques qui divisent la société américaine. Twitter a aussi accusé le média russe RT d'avoir dépensé 274 000 dollars en contenu sponsorisé en 2016 pendant la campagne électorale entre Donald Trump et sa rivale démocrate Hillary Clinton. Nous y reviendrons aussi en seconde partie de cette édition.
Le chef du groupe État islamique Abu Bakr al-Baghdadi a, dans un enregistrement audio, appelé ses combattants en Syrie et en Irak à résister à ce qu'il a appelé leurs ennemis. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
La date de l'enregistrement d'Abu Bakr al-Baghdadi n'est pas connue, mais son message a été diffusé par Al-Furqan, maison de production du groupe État islamique. Il a souligné que, je cite, « Ce qui importe, ce n'est pas le nombre, les équipements et la force des adversaires. Il s'en est pris, je cite, aux nations infidèles et en premier lieu l'Amérique, la Russie et l'Iran qui mènent des offensives contre ses combattants en Syrie et en Irak. » Le 16 juin, la Russie a dit avoir probablement tué Abu Bakr al-Baghdadi dans un raid aérien en Syrie. Sa mort n'a jamais été confirmée. Les États-Unis offrent 25 millions de dollars pour sa capture. Ses partisans l'appellent le fantôme tant ses apparitions sont rares. C'est à Mossoul qu'il a fait sa seule apparition publique connue en juillet 2014 à la mosquée Al-Nouri, dont le célèbre minaret a été détruit. Créé en 2014, le groupe État islamique a perdu beaucoup de terrain en Irak et en Syrie, mais parvient à perpétrer des attentats sanglants à travers le monde.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé à nouveau à la Birmanie hier un arrêt des opérations militaires dans l'ouest du pays et un accès sans entrave pour un soutien humanitaire, notamment à la minorité Rohingya. Lors d'une allocution devant le Conseil de sécurité, réuni lors d'une rare session publique sur la Birmanie, M. Guterres a aussi exhorté le gouvernement birman à assurer le retour en sécurité volontaire, digne et durable dans leur région d'origine des réfugiés et enfui au Bangladesh.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Blanche Sanou.
En Côte d'Ivoire, la filière coton génère près de 120 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires et représente entre 5 et 10 % des exportations du pays. Selon APA News, c'est un moteur important du développement des zones de savane où le coton constitue le poumon de l'économie rurale, avec environ 3,5 millions de personnes gravitant autour de cette culture en termes d'emploi et de développement de services. Le Forum Investing in Africa, une plateforme annuelle visant à accroître les investissements de la Chine en Afrique et d'autres coopérations multilatérales, s'est tenu à Dakar. Pour cette édition, un rapport préparé par la Banque mondiale et la Banque de développement de la Chine examine les possibilités d'accroître l'innovation dans divers secteurs économiques en Afrique. Plus de 400 participants ont assisté au forum, de même que des entreprises chinoises et africaines qui cherchent à élargir leur partenariat pour de nouveaux investissements. Le prochain forum Investing in Africa se tiendra à Yunnan, en Chine. Au Sénégal, le prix du kilogramme de farine de blé est resté stable selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques. En juillet 2017, cette denrée alimentaire s'est échangée à 413 francs CFA. Les prévisions de septembre 2017 du département américain de l'agriculture tablent sur une offre mondiale de blé à 1,7 millions de tonnes pour la campagne 2017-2018.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Voilà, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Bayern Munich, Limoges, son entraîneur.
Et oui, la débâcle 3-0 contre le Paris Saint-Germain a précipité sa chute. Carlo Ancelotti, l'entraîneur aux trois Ligues des Champions, a été limogé hier par le Bayern Munich après seulement une saison et deux mois à son poste. Les performances de notre équipe depuis le début de la saison ne correspondent pas à nos attentes, a tranché le patron du club, Karl-Heinz Rummenigge, dans un communiqué scellant le sort de Carletto. Le match à Paris a clairement montré que nous devons en tirer les conséquences, a conclu le dirigeant allemand. On rappelle, Idrissa, que le Bayern est actuellement troisième de la Bundesliga à 3 points du leader Dortmund. Et c'est Willy Sagnol, l'ancien adjoint de Carlo Ancelotti, ancien international français et entraîneur de Bordeaux, qui prend l'intérim de l'équipe.
La Ligue Europa hier.
Un match nul, un but partout entre le Slavia Prague et l'Astana du Kazakhstan. Le Milan AC a eu chaud, mais l'a emporté face à la modeste équipe croate de Rijeka, 3-2. Le Zénith Saint-Pétersbourg a remporté une deuxième victoire d'affilée en battant la Real Sociedad 3-1. Et puis Arsenal, auteur d'une grosse entame de matchs, a remporté facilement sa rencontre en Biélorussie face au Baté Borisov 4-2. Nouvelle victoire de Nice qui renverse le Vitesse Arnhem 3-0 à domicile. Lyon qui cale, 1-0 contre l'Atalanta Bergame.
Les demi-finales de la Ligue des Champions.
Et dès ce soir, l'USM Alger reçoit le Wydad Casablanca. À suivre, l'étoile sportive du Sahel contre Al Ahly d'Égypte ce week-end.
Report du match Super Sport United Club Africain.
La rencontre des demi-finales de la Coupe de la Confédération, initialement prévue demain à Pretoria, se disputera finalement dimanche. Ce report fait suite à des problèmes d'ordre technique puisque la délégation tunisienne est arrivée en retard en Afrique du Sud. On rappelle, Idrissa, la deuxième demi-finale, ce sera dimanche entre Mazembe et le FUS de Rabat.
Enfin, cyclisme avec la Tropical Amissa Bongo.
Oui, l'édition 2018 de la course cycliste gabonaise aura lieu du 15 au 21 janvier 2018. Elle retrouve ainsi sa place habituelle dans le calendrier, indiquent les organisateurs de cet événement. On rappelle que ces dernières années, les dates de la tropicale Amissa Bongo avaient été changées en raison d'événements sportifs majeurs comme la Coupe d'Afrique des Nations. Mais on le sait, la CAN sera déjà en mai jouée à partir du mois de juin, ce qui facilite la tâche pour les organisateurs.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les échanges sont au point mort entre le Cameroun et la République centrafricaine du fait de la quasi-fermeture par les autorités de Yaoundé de la frontière commune, alors que la Centrafrique connaît une nouvelle escalade de violence. Le Cameroun affirme que plusieurs de ses citoyens ont été kidnappés par des groupes armés et amenés en RCA. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka, repris ici par Lionel Gahima.
À Mayoré, des centaines de villageois célèbrent le retour de trois commerçants camerounais. Ils avaient été enlevés de cette localité il y a 2 semaines par un groupe armé centrafricain. Ils avaient été amenés en Centrafrique et les ravisseurs avaient exigé aux familles l'équivalent de 10 000 dollars par otage pour leur libération. Julie Nelem, une jeune femme de 25 ans dont l'oncle avait été kidnappé, ne cache pas sa joie.
Nous sommes très émus puisqu'ils étaient morts et ils sont ressuscités. Par la grâce de Dieu, nous sommes très contents.
Les trois anciens otages ont été libérés par les soldats camerounais après 2 jours de bataille rangée avec les rebelles le long de la frontière. Étienne Mbala Samba, représentant du gouvernement, affirme que plusieurs Camerounais ont déjà été enlevés depuis la reprise des affrontements en Centrafrique il y a 2 semaines. Selon lui, les troupes camerounaises ont été déployées pour mettre fin aux infiltrations des rebelles.
Nous avons dû tout à fait à contre-cœur fermer la frontière pour éviter que les désordres qui étaient à la frontière, c'est-à-dire en particulier les mouvements des troupes rebelles sur la bande frontalière, ne débordent sur notre territoire.
Les rebelles centrafricains viennent de la province de la Haute-Côte, théâtre de violents combats depuis le mois de juin. Le Cameroun fournit la plupart de biens de consommation et la nourriture à la Centrafrique. Avec la fermeture de la frontière, les échanges ont cessé, ce qui fait craindre des pénuries alimentaires dans les prochains jours. L'année dernière, 11 Camerounais, dont Mama Abakaï, maire de Latgo, ont été relâchés après avoir été enlevés en 2015. Le mois dernier, Yaoundé a rendu à des armes de guerre prises à des rebelles qui se cachaient au Cameroun. Ces groupes armés traversent régulièrement la frontière pour enlever des éleveurs, des hommes d'affaires, pour les déposséder de leurs avoirs et demander des rançons. Les Nations Unies signalent que depuis le mois de mai, la reprise des hostilités en Centrafrique a ramené son lot de destruction et de déplacements forcés des populations. Le Cameroun, qui partage 900 km de frontière avec ce pays, accueille quelques 300 000 réfugiés ayant fui ces violences.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Angola, le tout nouveau président, João Lourenço, a prêté serment devant un parterre de chefs d'État africains à Luanda. Il remplace José Eduardo dos Santos après 38 ans de règne sans partage. S'agit-il d'un vrai changement dans la conduite des affaires du pays? Idriss Fall a joint à Luanda le député Raoul Danda, vice-président de l'UNITA, principal parti d'opposition en Angola.
Pour moi, quand il y a continuité, il n'y a plus changement. Parce que s'il faut changer, on ne continue pas à faire la même chose. Je ne trouve pas que João Lourenço puisse avoir la force suffisante pour changer quoi que ce soit. D'abord, il a été indiqué par Dos Santos. Étant indiqué par Dos Santos, il doit obéissance à Dos Santos. En secondo, lui est parti d'un système, le même système qui a pratiqué la corruption pendant toutes ces années, le même système qui a très mal géré le pays. Lui était secrétaire général du MPLA à l'époque, la deuxième personne la plus importante de leur parti et par conséquent du pays aussi. Dos Santos a fait tout pour avoir des gens de sa confiance dans la direction de l'armée, des services de sécurité, de la police.
Et Dos Santos lui-même est resté à la tête du MPLA, non?
Absolument, il est resté à la tête du MPLA. au Parlement, la majorité parlementaire n'appartient pas à Lorenzo. La majorité appartient au MPLA, donc à De Santos. Si, par exemple, Lorenzo ne faisait pas ce que De Santos voulait, De Santos allait prendre des mesures parce que qui soutient Lorenzo sur le parti et qui est à la tête du parti, c'est De Santos. À moins que, dans un avenir très proche, De Santos puisse lâcher le parti et remettre à Lorenzo.
Il y a les enfants de De Santos aussi qui sont très présents, notamment Isabelle De Santos et son frère, non?
Non seulement les deux, presque tous les frères et sœurs sont là. Alors, est-ce que De Santos va accepter que, compte tenu le combat à la corruption, Lorenzo puisse bouger les enfants de De Santos? Certainement pas.
D'autant que l'économie ne va pas très bien parce que le prix du pétrole a baissé de manière dramatique. Quelle est sa marge de manœuvre pour lutter contre la pauvreté et la corruption?
Il est vrai qu'il a une situation économique grave au pays. Il est aussi vrai que la baisse du prix du baril du pétrole a eu un impact négatif. Mais le plus grand impact, c'est la corruption, c'est le vol. Pourquoi? Parce qu'il y avait une réserve, au moins 3 ou 4 budgets de l'État. Mais l'argent est complètement disparu. L'argent s'est volatilisé comme ça. Alors, dans un pays où le vol se fait comme ça, tout le monde vole, tout le monde prend des trucs et tout ça, bon, comment est-il possible qu'on puisse redresser cette économie? Est-ce qu'on est en présence d'un Gorbatchev? Est-ce qu'on est en présence d'un Frédéric de Clercq comme en Afrique du Sud? Bon, je ne sais pas, voyons voir.
C'était le député Raoul Danda, vice-président de l'UNITA en Angola. En Ouganda, pendant 2 jours, les travaux des parlementaires ont tourné au pigila avec des invectives et des coups de poing. Des députés de l'opposition ont été évacués manu militari du Parlement. Le parti au pouvoir veut supprimer la limite d'âge de 75 ans pour se présenter à la présidentielle. Cela permettrait au chef de l'État, Yoweri Museveni, 73 ans, de briguer en 6e mandat en 2021. Idriss Fall, de nouveau, a joint à Beni notre confrère Nikese Kibel-Beloka du journal Les Coulisses, revenu hier de Kampala.
Le problème qui se pose en Ouganda, c'est le problème de la limite d'âge pour être président de la République. Le gouvernement actuel a retiré l'âge pendant autant d'années, mais l'âge l'a rattrapé. Et les parlementaires veulent que le projet de loi puisse être adopté pour que l'âge du président de la République ne dépasse pas les 75 ans. Or, il se fait que le président Museveni, en 2021, donc prochaines élections, il aura déjà dépassé cet âge. Alors, tout l'enjeu est resté celui-là. Il faut au nord supprimer l'âge limite pour être président de la République en Ouganda.
Si l'amendement passe, ça signifie que Museveni pourrait se représenter pour un 6e mandat?
Effectivement, mais l'amendement est passé pratiquement parce que le projet de loi a été accepté et l'opposition étant minoritaire, c'est sûr que l'amendement va passer. Mais ce qui est quand même assez drôle dans cet amendement, c'est que l'amendement va supprimer la limite d'âge de 75 ans sans supprimer le nombre de mandats. Donc, une fois que l'amendement sera voté, Museveni aura le couloir pour continuer sans que le nombre de mandats ne soit posé comme problème.
Donc, il peut être une sorte de président à vie, quoi.
Effectivement, c'est une présidence à vie parce que c'est un projet vraiment taillé sur mesure. Et comme vous pouvez vous rendre compte, le mandat qui s'écoule, Museveni avait été accusé de vouloir faire succéder à son trône son fils. Il y a eu beaucoup de remis-ménages. Maintenant, comme pour le fils, ça n'a pas marché, naturellement, il a piégé, je peux même dire piégé et payé les parlementaires, même si on n'a pas de preuves, pour qu'effectivement, on fasse sauter l'obstacle sur la limite d'âge.
Notre confrère Nikese Kibel-Beloka du journal Les Coulisses à Beni, dans l'Est de la RDC.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Le Congrès américain a appelé Facebook, Twitter et Google à témoigner dans le cadre de l'enquête sur une possible influence russe dans la dernière présidentielle américaine. Il s'agit de savoir si les services en ligne proposés par ces géants américains ont pu servir à une campagne d'influence russe pendant la campagne présidentielle ici aux États-Unis. Pourra-t-on enfin avoir des éléments de réponse? C'est la première question que Jacques Aristide a posée à Michael Shurkin, politologue à la Rand Corporation.
Oui et non. Oui, je crois qu'on va avoir des éléments de réponse. Mais non, dans le sens que ce n'est pas important. Quoi qu'il en soit, les Russes ont réussi à avoir l'effet qu'on désirait. Quand on a moins de confiance en ce qu'ils disent les médias, on a miné la confiance. En donnant à tous une raison pour encore plus soupçonneux de l'autre côté. Même si Facebook, Twitter, ils sont très transparents, même s'ils dévoilent toutes les vérités, et même si ces vérités, enfin, démontrent qu'il n'y avait rien d'important qui s'est passé, on va toujours garder ce sentiment que les Russes, ils ont influencé les choses. Il y a toujours cette histoire de fake news. Et aussi, il faut dire que ce serait impossible de savoir si Google, Facebook et les autres s'ils disent la vérité. Ça, c'est notre problème. On ne peut pas les vérifier.
Facebook est particulièrement concerné par cette enquête. Son fondateur, Mark Zuckerberg, admet avoir sous-estimé l'impact politique des fake news diffusées sur sa plateforme avant le scrutin du 8 novembre dernier. Faut-il s'attendre à d'importants changements au niveau des médias sociaux?
Je ne crois pas que Facebook va faire quoi que ce soit. Il n'y a pas vraiment des instruments, des moyens pour vraiment trier entre les fake news et les actualités vraies. C'est très, très, très difficile et ça devient de plus en plus difficile. D'abord, ils ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas les mécanismes, mais aussi parce que, bon, ça n'est pas dans leur intérêt. Ils s'intéressent à faire des profits. C'est un business et c'est normal. Et même aujourd'hui, sur Facebook, j'ai vu un article qui était mis sur Internet par un média qui n'est pas en général connu comme la fake news. Mais en lisant l'article, j'ai pu voir que les titres ne correspondaient pas du tout de contenu. Et en fait, le contenu était des fake news. Il n'y a pas un moyen pour Facebook de trier entre les fake news comme ça. Tout ce n'est pas noir et blanc.
Mais le rôle des médias sociaux est vu différemment par les partisans des deux grands partis politiques américains, le Parti démocrate et le Parti républicain, n'est-ce pas?
Oui. Tous les deux côtés accusent l'autre d'être coupable de la même chose. Et c'est très difficile à ce point-là d'essayer de faire un trait d'union, de faire que les deux côtés sont d'accord. Et même d'accord sur les faits. Et ça, ça fait très peur. Les faits, les chiffres, les choses qui devraient être hors de discussion. Maintenant, tout se discute. Je ne sais pas comment on va faire pour corriger ce problème.
Michael Shurkin, politologue à la Rand Corporation, joint à Washington. Retour à l'Afrique, au Burkina Faso, le mung bean ou haricot mungo, céréales aux valeurs nutritives reconnues, prend de plus en plus de place dans les champs des agriculteurs. Sa facilité de production et le prix d'achat du kilo incitent de plus en plus d'agriculteurs à s'essayer dans le mung bean, appelé aussi soja vert. Reportage de Zoumana Wonogo, notre correspondant à Ouagadougou.
Après avoir donné au Burkina la médaille de bronze à la Coupe d'Afrique des métiers de bouche, le mung bean, cette céréale ressemblant au petit pois, commence à entrer dans les habitudes culturelles des Burkinabés. Léandre Zangré, fonctionnaire à la retraite, raconte son expérience de la culture du mung bean.
Je me suis dit que je vais me lancer à l'eau. Et c'est là que j'ai semé 2,5 hectares, le mung bean. Comme c'est ma première expérience, j'espère l'hectare peut avoir une tonne et demie, jusqu'à 2 tonnes. Alors que j'ai 2,5 hectares, donc j'espère quand même avoir près de 6 tonnes comme ça. Le kilo du mung bean est 300 francs.
Madame Sophie Caboret, responsable d'un groupement féminin d'agricultrices, explique la différence entre la culture du mung bean et les autres spéculations.
Avant là, c'était riz, mil et puis haricot. Ce qui est mieux là, c'est le mung bean qui est mieux. Ça donne beaucoup de l'argent et ça donne beaucoup de la nourriture. On a eu beaucoup de l'argent et on a beaucoup de joie. Avec l'argent de mung bean là, je vais aller payer les frais de scolarité des enfants et acheter de la nourriture pour manger.
La présidente de l'association des producteurs de mung bean lance quant à elle un appel aux femmes à se lancer dans la production du mung bean. La présidente Assita Kone.
L'appel que j'ai aux autres femmes du Burkina, je les invite à essayer le mung bean. Parce que moi, j'ai essayé, je sais ce que ça vaut. Parce que quand on essaie, on reste. La pauvreté a un visage féminin. Donc, ça fait que ça nous aide beaucoup à aider nos maris à s'occuper des enfants.
En écho, la représentante du PNUD au Burkina, Mme Metsi Maketa, retient plusieurs valeurs et vertus au mung bean.
On nous a dit que la plupart des femmes qui travaillent sont des femmes démunies. Donc c'est ce principe de donner la dignité à la femme. Deuxième chose, c'est que c'est la dignité à travers quelque chose qui va valoriser toute la famille. C'est une filière aussi qui tient compte de ce qui est la variabilité climatique. Nous savons que nos pays, et surtout le Burkina Faso, fait partie des pays où les variabilités climatiques peuvent compromettre la production de certaines filières. Or, avec le mung bean, on sait qu'on peut produire toute l'année.
C'est tout cela qui a valu au promoteur Victor Tchendrebiogo Di Larle Naba de recevoir dans sa ferme le corps diplomatique accrédité au Burkina et le message de félicitations du gouvernement burkinabé. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Patrick Dea. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.